Et on fait tout de suite un point sur l'information avec vous, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. En Allemagne, un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé chez l'attaquant d'un train régional. Hier soir, un jeune demandeur d'asile afghan, âgé de 17 ans, selon le ministre bavarois de l'Intérieur, a grièvement blessé plusieurs passagers, leur assénant des coups de couteau et de hache. Plusieurs passagers blessés, trois grièvement. L'assaillant a lui été tué par la police. En France, 5 jours après l'attentat commis sur la promenade des Anglais à Nice, début d'un instant à l'autre d'un conseil des ministres à l'Élysée, avec la présentation du projet de loi prorogeant l'état d'urgence pour 3 mois au-delà du 26 juillet. Ce texte prévoit également d'autoriser à nouveau les perquisitions administratives et de permettre la saisie et l'exploitation de données contenues dans des ordinateurs ou des téléphones. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Manuel Valls. La droite, pas convaincue par ces propositions, le président Les Républicains de la Commission des lois au Sénat demande notamment une prolongation de 6 mois de cet état d'urgence et un renforcement du pouvoir des préfets, procéder par exemple à des contrôles d'identité, à des fouilles de bagages et de véhicules sans besoin de se justifier. La gauche gouvernementale à l'épreuve de l'Assemblée, donc ce soir, la gauche soumise aux sifflets et aux insultes hier pour la cérémonie d'hommage organisée sur la promenade des Anglais à Nice. Excusez-moi, des sifflets indignes d'un hommage aux victimes, c'est ce qu'a déclaré Manuel Valls hier, des sifflets pas vraiment spontanés, selon Philippe Tabarot, le vice-président Les Républicains de la région PACA évoque une orchestration du Front National, le FN qui tente de tirer parti de la colère exprimée contre le gouvernement et contre la mairie de Nice. Est-ce l'occasion d'élargir la base électorale du FN ? L'analyse du politologue Joël Gombin.
Ce type d'événement ne produit pas nécessairement un effet uniforme sur l'ensemble de l'électorat, mais il y a plutôt des effets de réinterprétation très différenciés selon ce qu'on pense déjà auparavant. D'une part, il y a la question de savoir quels sont les enjeux prédominants dans le débat politique. De ce point de vue-là, clairement, la séquence terroriste que nous connaissons permet au Front National de mobiliser à fond son électorat, plus d'ailleurs peut-être que d'élargissement de ce socle-là. Maintenant, la deuxième dimension d'analyse, c'est que les électeurs interprètent les événements au prisme de leurs attitudes politiques et idéologiques, de leurs croyances, de leurs comportements électoraux antérieurs. Donc effectivement, pour un électeur plutôt prédisposé à voter pour le Front National, la séquence peut le renforcer dans ses choix, mais pour un électeur hostile au Front National, elle peut également le renforcer dans ses choix sur un type de raisonnement, par exemple, consistant à dire que l'opposition entre les communautés est dangereuse pour la cohésion nationale. Donc c'est assez compliqué d'évaluer les effets politiques nets, mais si jamais on devait voir cette séquence terroriste se poursuivre et s'amplifier, je crois que personne n'est capable de dire si, à un certain moment donné, on n'atteindrait pas un point de rupture qui rebattrait de manière fondamentale les cartes. Je pense que le Front National espère fortement qu'on atteigne cette situation.
Le politologue Joël Gombin, spécialiste du Front National, joint par Violette Voldoir. L'attentat de Nice qui ravive les clivages politiques, qui pose également la question des moyens accordés à la sécurité. 160 000 professionnels de sociétés de sécurité privée se disent prêts à répondre aux besoins urgents. Si les 250 000 policiers et gendarmes en France ne suffisaient plus à répondre aux demandes multiples, la sécurité privée, domaine qui pourrait voir ses effectifs doubler d'ici 5 ans, Hakim Kasmi.
Faute de pouvoir recruter en masse, l'État fait de plus en plus appel aux sociétés de sécurité privées. D'autant que même si François Hollande a annoncé le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes et militaires d'ici 5 ans, la pénurie guette. Les besoins sont nombreux, les demandes de l'État représentent à elles seules 22%. Du gardiennage à la sécurisation aéroportuaire, en passant par l'encadrement de manifestations sportives ou encore par le transport de fonds, la filière reste hétérogène. Avec une question, faut-il ou non armer les agents de sécurité face à une menace terroriste de plus en plus importante. Ce qui pose aussi la question de la formation, puisque un tiers des 10 000 entreprises du secteur sont des auto-entrepreneurs. Et 140 heures de formation, ainsi qu'une simple enquête de moralité suffisent pour avoir le droit d'exercer. Même si les agents ont été sensibilisés à la menace terroriste, le secteur reste très précaire. Le turnover ainsi que les salaires très bas font partie du métier, ce qui complique sa professionnalisation et son attractivité, d'où l'importance de rendre la formation attractive avec un institut de formation national comme pour la police et la gendarmerie.
Et toujours après l'attentat de Nice, la France poursuit ses frappes aériennes contre des positions du groupe État islamique au Proche-Orient. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, invité de nos confrères de France Info. Frappe cette nuit contre Mossoul, la métropole du nord de l'Irak. En Syrie, le président Bachar el-Assad est en passe d'atteindre son objectif, reprendre le contrôle de la plus grande partie de la Syrie dite utile. L'armée syrienne régulière assiège en effet totalement les quartiers rebelles d'Alep, 4 ans après le début des combats dans cette ville. Ce week-end, elle a repris le contrôle de la dernière route qui ravitaille les 200 000 habitants à peu près de la ville. Les risques de famine et de pénurie générale s'accroissent par ailleurs pour les habitants dans ces quartiers qui sont désormais assiégés. Pour Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste du Moyen-Orient, cet encerclement est une victoire de taille pour Bachar el-Assad, mais elle laisse craindre un désastre humanitaire.
C'est une victoire incontestable pour le régime Assad qui a progressé méthodiquement pendant 1 an et demi pour obtenir le contrôle de la dernière voie d'accès à ces quartiers insurgés. C'est donc une victoire pour Assad, une victoire pour la Russie, une victoire pour le Hezbollah qui était très engagé sur place, mais aussi pour les séparatistes kurdes. C'est avant tout une catastrophe pour la population. Nous parlons d'au moins 200 000 personnes qui sont totalement piégées dans une partie d'Alep qui a déjà été la cible au cours des derniers mois de campagnes intensives de bombardements au baril, ces containers de TNT largués à basse altitude pour en maximiser l'impact destructeur. Donc on a 200 000 personnes aujourd'hui à Alep qui probablement auront épuisé leurs provisions dans quelques semaines. Déjà les prix flambent et même si des tunnels seront probablement creusés pour des approvisionnements ponctuels, ces 200 000 personnes sont menacées d'une mort à petit feu si ce n'est sous les bombardements au baril.
Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris, était interrogé par Camille Revel. Entre adoration, mépris et résignation, la convention républicaine qui doit investir Donald Trump pour la présidentielle de novembre prochain s'est ouverte à Cleveland hier soir aux États-Unis. Les opposants du milliardaire de 70 ans ont réclamé à coup d'arguments mais aussi de sifflets et de cris un nouveau vote en faveur de candidats indépendants, en vain. Une polémique enfle par ailleurs sur l'épouse de Donald Trump, Melania. Elle a prononcé un discours plutôt bien accueilli par les délégués cette nuit, mais elle est accusée d'avoir partiellement plagié un discours de Michelle Obama. C'était pour la convention démocrate de 2008. Un mot du temps de ce mardi 19 juillet. 12 départements sont placés en alerte canicule. Le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente maritime, la Mayenne, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Sarthe. Il fait encore plus chaud qu'hier. Il fera entre 31 et 34 degrés dans un grand quart nord-est du pays, de 34 à 40 partout ailleurs. Un grand merci à François-Charles Domergue et Martin Descloseaux pour leur aide ce matin dans la présentation des journaux. Rendez-vous à 12h30 pour la prochaine édition, journal présenté par Antoine Mercier.